Il y avait ici un usage. Quand on était poète, on parlait par ensemble de 12 syllabes qu'on appelait les alexandrins avec une césure. Donc on écrit « Prière de ne pas toucher au document ». C'est un alexandrin. Non, pardon, j'ai oublié mon bouquin. Excusez-moi.
C'était la façon, c'est marqué prière de ne pas toucher mon document.
Bon, je vous parlais l'autre jour d'un certain oracle qui a fait un peu de bruit en son temps, aujourd'hui complètement oublié. Et c'est d'oracle que je voudrais parler aujourd'hui. C'est précisément un usage qui ne nous est pas facile de comprendre. Ça fait vraiment partie des usages d'êtres humains qui parlent comme nous, mais qui parlent une autre langue et qui sont morts depuis fort longtemps. Pour eux, c'était banal. Alors voilà. Voilà l'oracle dont je vous parlais à propos du caractère énigmatique de certains oracles. Bon. Alors, les Spartiates avaient le plus grand mal à conquérir la ville de Tégée. Il n'y avait pas moyen de la conquérir. L'oracle leur avait promis qu'ils devraient la conquérir, mais ils n'y arrivaient pas. Et un beau jour, ils ont une fois de plus consulté l'oracle, le grand, le vrai, celui de Delphes. Et on lui a répondu, alors voilà une traduction. Il est en Arcadie, à Tégée, dans la plaine, un endroit où deux vents sont contraints de souffler. Le choc répond au choc, la peine est sur la peine. Le fils d'Agamemnon, qui gît là enterré, fait ce qu'il faut pour qu'à Sparte il revienne, et tu seras le maître de Tégée. Bon, alors j'ai traduit ça avec des rimes, ce qui est une folie. Hein. Les Grecs n'ont jamais utilisé les rimes, les poètes grecs ne savent pas du tout ce que c'est. Mais je voulais que le lecteur se rende bien compte que l'oracle est en vers. Donc j'ai utilisé le sens français classique du mot vers qui suppose des rimes. Il n'y a pas de rime ici parce qu'il n'y a qu'un seul. Bon. Alors, c'est un texte incompréhensible. Il y a un endroit où deux vents sont contraints de souffler. Le choc répond au choc. La peine est sur la peine. Un Spartiate qui se promenait à Tégée pendant une période de trêve, un espion, hein, est entré, Dieu sait pourquoi, dans une forge. Le forgeron était un homme aimable qui lui a dit des choses rigolotes, en particulier qu'il avait essayé de creuser un puits dans sa cour et qu'en creusant le puits, il était tombé sur un tombeau avec un squelette humain, mais un squelette plus grand que les nôtres, enfin. Vraiment un tombeau très ancien, du temps où les gens étaient plus grands qu'aujourd'hui. Et le Spartiate a immédiatement compris ce que ça voulait dire, c'est pas deux vents sont contraints de souffler, il y a des soufflets de forge, on les oblige à souffler. Le choc répond au choc, le marteau sur l'enclume, la peine est sur la peine, alors c'est tiré par les cheveux, hein, parce que le métal c'est ce qui sert à tuer, hein, donc ça cause les peines, il y a du métal sur du métal, et le Spartiate a très bien compris le fils d'Agamemnon gît là enterré, c'était donc les os que l'autre avait trouvés, c'était le squelette d'Oreste qui autrefois, après ces histoires, a régné à Sparte, et il fallait simplement voler le squelette d'Oreste et l'enterrer à Sparte. Ce que les Spartiates ont fait, et ça a marché. Et les Spartiates ont conquis Tégée. Bon, alors, cette histoire, très jolie, cette histoire est vraie. Ou tout au moins, Hérodote la donne comme vraie. On y croit, ça pose aucune espèce de problème. Et j'insiste sur le fait que ça met en jeu une cité, le gouvernement d'une cité, les responsables d'une cité, qui très publiquement prennent la décision d'aller consulter l'oracle de Delphes pour savoir ce qu'ils vont faire. Alors, il y a toujours, bien entendu, des gens qui sont capables de prédire l'avenir. Et un certain nombre d'entre nous, peut-être, vont de temps à autre consulter un astrologue, une voyante, etc. Ceux qui n'y croient pas, disent qu'après tout, c'est parfaitement inoffensif. Enfin, ça ne fait mal à personne. Il est très rare, on l'entend vraiment très rarement dire que les voyantes ou les astrologues donnent à leurs patients ou à leurs clients, comme vous voulez, des conseils criminels. En général, ces gens-là ont des idées raisonnables. Et, enfin, les gens qui les consultent en sont généralement contents. Mais ça reste quelque chose de complètement privé. Et quand on en parle en public, entre gens, c'est pas... Oui, je suis gêné moi-même. Quand on en parle en public, on dit, oui, il y a des gens qui... cette espèce de... ça leur plaît. Bon, mais puis c'est pas méchant, quoi. Dans la Grèce antique, c'est très officiel. Les républiques, les États, consultent l'oracle de Delphes. Bon, tout ça pour en venir. Alors, d'une part, donc, à ce qui m'avait amené la dernière fois à en parler, c'est-à-dire le rapport entre l'expression énigmatique de certains oracles et l'interprétation éventuellement énigmatique, allégorique, mystique de certains textes. Allégorie, vous voyez ce que veut dire la chose, ça veut dire littéralement que on parle d'autre chose, que le texte a un autre sens. Alors, on le voit quand il n'a pas de sens. On se dit bien, il devrait en avoir un autre derrière. Mais de toute façon, parler à la fois d'une chose et d'une autre, c'est quelque chose que les Grecs aimaient beaucoup faire pour toutes sortes de raisons. Alors, revenons-en à un oracle sérieux, ce oracle que nous avons entendu et que je vais vous reprendre parce que il faut faire attention, je crois, à chacun de ces termes. C'est l'oracle de Tirésias. Alors, il faudrait parler de Tirésias, évidemment, peut-être, enfin... Et en fait, Tirésias n'est pas tellement... la légende de Tirésias, sa métamorphose, le fait qu'il a été homme puis femme puis homme, et toutes ces histoires-là, ça n'a pas une incidence immédiate sur le texte, donc je laisse de côté. Alors, c'est le retour plus doux que le miel, noble Ulysse, que tu veux obtenir. Mais un dieu doit encore te le rendre pénible, car jamais l'ébranleur du monde, je le crains, n'oubliera sa rancune, il te hait pour avoir aveuglé son enfant. Tout ça, on sait, hein, extraordinaire, Poséidon, qui est le père du cyclope, en veut à Ulysse et lui met des bâtons dans les roues. Et pourtant, il se peut qu'à travers tous les mots, vous arriviez au terme, si tu sais consentir à maîtriser ton cœur et celui de tes gens. Dans cette phrase que je viens de lire, il y a un mot qui est fondamental, qui est « si ». Un mot qui est fondamental, qui est « si ». Je m'explique. Je continue. « Aussitôt qu'échappé à la mer violette, ton solide vaisseau vous mettra sur les bords de l'île du Trident, vous trouverez, paissant, les vaches du soleil et ses grasses brebis, c'est le Dieu qui voit tout, le Dieu qui tout entend. Respecte ses troupeaux. Ne songe qu'au retour, et je crois qu'en Ithaque, à travers tous les mots, vous rentrerez encore. Mais je te garantis, si vous les maltraitez, que c'est fini de ton navire et de tes gens. Tu pourrais t'en tirer et revenir, mais quand et dans quelle misère, tous tes hommes perdus sur un vaisseau d'emprunt, et pour trouver encore le malheur au logis, pour y voir des bandits te dévorer tes biens et le prix à la main te courtiser ta femme, tu rentrerais à temps pour punir leurs excès à la pointe du bronze, etc. Bon, après, la suite de l'oracle, vous pouvez peut-être la rappeler tout à l'heure, c'est le voyage que Ulysse doit à nouveau entreprendre une fois rentré chez lui, pour tâcher de trouver un pays où on ne sache pas ce que c'est que la mer. Bien. Si. On a affaire ici à un oracle, comme il s'en écrit un certain nombre, comme il s'en proclame un certain nombre dans l'histoire, c'est un oracle conditionnel. On ne dit pas comment les choses vont se passer. On ne dit pas ce que les Ulysse et ses compagnons vont faire quand ils seront sur l'île du Soleil. On leur dit simplement, si vous avez le malheur de tuer les vaches de l'île du Soleil, ça n'est pas bon pour vous. Et vous aurez, et vous périrez. Alors, il s'agit bien d'une divination qui ne dit pas absolument les choses. On vous donne une espèce de loi pour ce qui va se passer plus tard. Cette loi peut avoir lieu peut s'appliquer, peut ne pas s'appliquer. On vous dit qu'il y a une conséquence entre le meurtre des vaches et la perte des compagnons d'Ulysse, mais on ne vous dit pas si les compagnons d'Ulysse mangeront les vaches ou non. D'une certaine manière, nous aurions tendance à dire, mais c'est un peu moderne, ils sont libres de le faire ou de ne pas le faire. Ça, c'est une autre affaire. Bien. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que nous avons tous dans la tête un autre schéma que nous appelons le schéma du destin. On rencontre ça partout, on rencontre ça notamment quand il est question de tragédie. Et on rencontre ça notamment quand il est question d'un certain Édipe, qui figure plus tard dans le chant 11, Ulysse, au milieu de toutes les dames célèbres, voit apparaître la femme d'Édipe, qui est, comme vous savez, aussi sa mère. Alors, cette histoire sinistre, je suis convaincu qu'elle est vraie, enfin, tant pis pour moi, cette histoire sinistre a donné lieu à une tragédie extrêmement célèbre qui s'est jouée donc à peu près au milieu du 5e siècle, qui s'est depuis rejouée un très grand nombre de fois, qu'on joue encore, Édipe roi, et je dis Édipe. Beaucoup de gens disent Édipe comme s'il était danois, mais je ne crois pas qu'il soit danois. Alors, Édipe. Édipe, donc, c'est une histoire où, cette fois, le destin est fixé. Édipe n'a pas le choix. Et même justement, ce qui a été prédit aura lieu malgré les efforts que fait Édipe. On a dit à Édipe, tu vas tuer ton père et tu vas épouser ta mère. Alors, il prend une décision qui est une décision courageuse, une décision audacieuse, il s'en va de chez lui. Plus précisément, il ne retourne pas chez lui puisqu'il était allé consulter l'oracle à quelques distances. Bon, il prend le parti de quitter père et mère, de s'exiler de son pays, de ne plus jamais y mettre les pieds, et nous n'aimons pas beaucoup être exilés, les Grecs l'aimaient encore beaucoup moins que nous. C'était vraiment un sort considéré comme particulièrement terrible que celui de l'exilé. Alors, ce que Édipe ne sait pas, c'est que son père et sa mère sont un père et une mère adoptifs. Ne sont pas, comme on dit maintenant, un père et une mère biologiques. Il ne peut donc pas savoir que le vieux monsieur acariâtre qui a levé sur lui son bâton à propos d'une histoire de circulation, le monsieur voulait absolument que Édipe le laisse passer sur le chemin qui est sur son char et lever son bâton. Édipe, c'est un peu fâché. Bon, il ne sait pas que ce vieux monsieur, qu'il a tué, il a perdu évidemment, que ce vieux monsieur était son père. Il ne sait pas non plus que la dame qu'il a épousée en arrivant dans la bonne ville de Thèbes, on lui a fait épouser la reine parce qu'il avait sauvé la ville, comme vous savez, d'un monstre, du sphinx. Donc il ne sait pas non plus que cette dame est sa mère. Vous me direz qu'il aurait pu se poser des questions, mais pourquoi il serait posé des questions puisqu'il savait que son père et sa mère étaient à Corinthe et croyaient que c'était son vrai père et sa vraie mère. Bon, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était un enfant trouvé, qu'il avait été adopté, qu'on lui avait toujours caché qu'il avait été adopté, et qu'en réalité, il était donc le fils des rois, du roi et de la reine de Thèbes. Alors ici, on a affaire à un cas, qui est un cas particulier, un cas où tout se passe comme si une volonté unique avait décidé que la prédiction aurait lieu envers et contre tout, et se réaliserait envers et contre tout. Là, on a le sentiment d'avoir affaire à quelque chose que nous avons l'habitude d'appeler un destin. Mais il faut faire attention, ça n'est pas parce que Sophocle a raconté l'histoire d'Édipe de cette manière, dans une tragédie qui est absolument superbe, une tragédie pour laquelle Aristote avait de la vénération, et Aristote avait bon goût, ça n'est pas parce que Sophocle a raconté cette histoire que le destin est présent à tous les pas que font tous les héros de la Grèce et tous les personnages de la littérature et de l'histoire grecque. Cette idée de destin est une idée qui est fabriquée à partir d'une exagération formidable. On a pris pour la règle générale quelque chose qui est assez particulier à l'histoire d'Édipe lui-même. Non, c'est quelque chose, comme vous voyez, qui ne fonctionne pas dans la prédiction de Tirésias. Alors, Tirésias dit bien que Ulysse s'en sortira de toute façon, Mais, pour ce qui est des compagnons d'Ulysse, la porte est ouverte. Ce que Tirésias sait, c'est que si, on n'a jamais dit à Ulysse, à Œdipe, si. On lui a dit, tu tueras ton père, point. Et tu épouseras ta mère, par-dessus le marché. Alors, bien entendu, on pourrait, après cela, dire des choses sur les probabilités pour lesquelles, les probabilités pour que se réalise la condition. Est-ce qu'il y a des chances pour que Ulysse mange les bœufs du soleil? Ulysse est quelqu'un qui respecte les divins, les devins, qui respecte les oracles, qui respecte les dieux, qui respecte le soleil est un très grand dieu. Ulysse, les compagnons, c'est moins sûr. Les compagnons, ce sont des gens qui ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Et ce sont des gens qui ont peur et qui ne savent pas dominer leur peur. Alors, vous relisez le chant 12, il y a deux choses parfaitement claires. D'une part, au moment où on arrive près de l'île du Soleil, après être passé par les sirènes, Charybde, Scylla, etc., Ulysse dit, on ne s'arrête pas, on continue, il ne faut pas. Il dit, mais non, on ne va tout de même pas, c'est trop, rentrons. On ne va tout de même pas partir dans la mer, en pleine nuit, sans voir où on va. On a là un moyen de s'arrêter. On va passer la nuit ici, sur la terre ferme, sur le plancher des vagues. Je vous recommande, si vous le trouvez, un petit bouquin qui est publié autrefois au Seuil dans la collection Microcosme. Homère par lui-même. L'auteur s'appelle Gabriel Germain, c'est très très grand bonhomme. Et Gabriel Germain dit « L'Odyssée, c'est un vrai livre de marin. » Il y a des tas de gens qui écrivent des livres sur la mer et sur les marins qui sont tous un peu faux, souvent. Un vrai livre de marin parce que c'est un livre écrit par quelqu'un qui a peur de la mer. Mais un vrai marin, il sait qu'on ne peut pas se fier à la mer. Il a beau avoir navigué toute sa vie, il continue à en avoir. Et ça se voit. Bon, les marins, donc, ils ont peur de la mer, et ils tiennent absolument à rester sur l'île du Soleil. Et c'est là que la malchance se fait, le vent qui souffle est contraire, il n'y a pas moyen de repartir, le vent les repousserait vers l'île, même à la rame, il n'y a rien à faire. Donc, ils restent là pendant très longtemps, et puis ils finissent par épuiser toutes leurs provisions. Et c'est comme ça qu'un beau jour, où Ulysse a eu le malheur de dormir, ces braves gens tuent les bœufs du soleil. Et ils ont une argumentation qui est encore une argumentation étonnante, une argumentation de peur. Alors je ne sais plus lequel.
C'est
Euryloque. Et bien Euryloque leur dit, écoutez, de deux choses l'une, ou bien on s'en sort, ou bien on ne s'en sort pas. On mange tout de suite. Après, c'est vrai, on est châtié, envoyé par le fond, ou bien on en rentrera chez nous. Mais alors, si on est envoyé par le fond, ça va quand même plus vite que de crever de faim ici. C'est affreux de mourir de faim. C'est la mort la plus abominable qu'on puisse imaginer. Alors, écoutez, tant pis. Hein, on tente le coup. Alors, c'est étonnant parce que vous avez peut-être rencontré des marins qui disent « Non, on ne veut pas apprendre à nager. » Jamais rencontré.
Oui.
Des marins, là, des gens de métier, des gens qui passent leur vie sur la mer, pas apprendre à nager. Parce que si on sait nager, le jour où le bateau coule, eh bien on se bat. On se bat pendant 48 heures, puis on meurt quand même. Et c'est affreux. Tant qu'à faire, si le bateau coule, autant couler tout de suite. Il y a un raisonnement qui est un peu le raisonnement de Euryloque, enfin, d'une certaine manière. Bon. Et c'est la raison pour laquelle Euryloque s'embarque dans cette histoire. Alors finalement, si vous voulez, quand on pense à cette espèce d'opposition qu'il y a entre des gens qui ne voient pas plus loin que leur peur, et Ulysse
ce héros d'endurance, comme dit Polyclas, comme dit Dera.
Le héros de l'endurance.
Le héros d'endurance, absolument. C'est très juste. Hein. On comprend des choses. Et on comprend peut-être, à la limite, on comprendrait presque pourquoi l'oracle dit qu'il y a un risque et que de toute façon Ulysse sera sauf. Il y a une espèce de différenciation qui se fait entre l'homme qui tient le coup, l'homme qui résiste, l'homme qui fait front, l'homme qui ne lâchera jamais. Et ça se voit à chaque fois qu'Ulysse a été balancé du haut de son bateau ou du haut de son radeau, il s'accroche à son mât jusqu'au moment où il arrive sur une terre quelconque. Il y a les gens qui vivent d'une certaine manière au jour le jour et qui ont peur de ce qu'ils ont juste devant leur nez. Puis il y a le polytropos, qui est aussi le polyclas. Polytropos, c'est-à-dire, comme dit Béra, ça restera l'homme aux mille tours, l'homme extrêmement astucieux, l'homme qui sait toujours trouver l'astuce, qui fait les détours nécessaires, qui fait les mensonges nécessaires, Mais ce polytropos, cet homme aux mille tours, est aussi polyclas, c'est-à-dire celui qui endure. Non seulement celui qui a beaucoup enduré, qu'on a vu de toutes les couleurs, mais aussi celui qui sait endurer, celui qui tient le coup. Et c'est là qu'on s'aperçoit que dans le monde d'Homère, comme dans le monde des romans de chevalerie, la vertu majeure, c'est pas de la morale, c'est une espèce de savoir-vivre, dit je ne sais plus quel auteur. La vertu majeure, c'est la fidélité. Fidélité à soi, fidélité à ses engagements, fidélité à ses serments, à ses promesses. Et l'Odyssée, c'est une histoire de fidélité. C'est bien pourquoi on ne peut pas, nous sommes d'accord là-dessus, tout à fait, Bruno Rubin, on ne peut pas dire un tout petit bout de l'Odyssée si on ne raconte pas l'histoire du chien. Le seul qui est reconnu. Ni sa femme, ni la vieille nourrice, ni son fils, ni son serviteur fidèle, le porcher, etc. Personne ne reconnaît Ulysse. Oui, il faut des preuves, si vous voulez. Le chien, il ne manque pas de preuves. Le chien, il l'a repéré. Et puis, comme il l'a repéré, à ce moment-là, il cite l'évangile, le chien. Il dit Nunc dimittis. Maintenant, Seigneur, laisse partir ton serviteur en paix, pas que mes yeux ont vu la lumière. Bon, c'est pas vrai, bien sûr.
Mais non, parce qu'il ne parle pas, c'est un chef qui ne parle pas.
Mais il peut mourir. Et c'est formidable, parce que c'est aussi ce qui est promis à Ulysse. Et c'est ce que promet Tirésias à Ulysse. Et c'est l'image du bonheur que peut avoir un de nos frères humains d'il y a 3000 ans. Cette image, c'est vivre sans trop de douleur, dans un relatif confort, vivre au milieu de ses enfants et de ses petits-enfants, et puis mourir un jour, tout doucement, presque sans s'en apercevoir. C'est que le sommeil semble aveugle. Peut-être que... Alors, il y a cette chose extrêmement, complètement énigmatique dans le texte d'Homère, la mort te viendra, elle sera douce. La mort te viendra de la mer. Alors, on a beaucoup inventé de choses là-dessus. Dans d'autres auteurs plus tardifs, on dit que c'est le fils de Circé qui est venu chercher son père, qui l'a croisé quelque part dans la ville d'Ithaque et qui l'a tué sans le reconnaître. Qui l'a tué doucement, apparemment. Enfin, bon, est-ce que Homère connaît cette histoire, s'il ne la connaît pas, je n'en sais rien. Mais vous savez, c'est entre parenthèses, je me dépêche, c'est entre parenthèses, mais c'est quand même très 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 amusant. Hein. Tout le monde est d'accord pour admettre que l'Odyssée et l'Iliade sont les plus anciens textes de la littérature grecque. Il y a probablement des parties plus nouvelles, plus récentes qui ont été ajoutées, mais enfin, dans l'ensemble, ces textes-là sont anciens. Donc, si quelque chose n'est pas dit dans l'Odyssée et dans l'Iliade, mais le donc est complètement louf, complètement fou, donc, si quelque chose n'est pas dit, c'est que ça a été inventé après Homère. L'idée que Homère ait pu choisir parmi toutes les rares histoires que racontaient ses confrères à Aède, et puis de temps en temps laisser tomber un détail, c'est une idée qui passe très difficilement dans la tête d'un certain nombre de gens. Nous faisons comme si nous avions devant nous, plutôt au ciel, la totalité des récits que les Aèdes ont racontés. C'est très drôle. Bon, c'est une autre affaire. Bien. Oui, par exemple, Homère est supposé ne pas savoir que Ulysse s'est crevé, que Œdipe s'est crevé les yeux et que il est parti en exil. Dans Sophocle, Œdipe se crève les yeux, c'est essentiel. Et il part en exil après, on met à la porte. Bien, c'est essentiel aussi. Maintenant, dans d'autres auteurs, dans Euripide par exemple, Œdipe continue à vivre, et Jocaste aussi continue à vivre. Enfin, il y a d'innombrables variantes. Pourquoi les variantes dont nous avons une expression à l'époque de Sophocle, au 5e siècle, n'auraient pas existé à l'époque d'Homère? Pourquoi pas? Mais quand nous avons... nous estimons que la variante de mer est... on estime que la variante de mer est la vraie. Bon, alors, il va falloir revenir maintenant à cette question du destin. J'ai insisté sur le fait qu'il y avait un oracle qui est un oracle conditionnel. Bon. On en trouverait d'autres, d'ailleurs.
La tortue.
Ah oui. Ah, c'est encore une drôle d'histoire, ça, oui. Mais non, mais on en trouverait, mais tenez, simplement dans l'histoire d'Édipe. On a dit à Édipe, tu tueras ton père. Mais on a dit au père, si tu as un fils, il te tuera. Et le père a eu tort à beau jour de boire un peu trop. Bon. Encore un oracle conditionnel. Donc, des oracles absolus, si vous voulez, des oracles conditionnels. Bon, mon idée est de vous suggérer que tout le système des oracles, prédictions, augures, présages, etc., n'est pas un système, mais est une espèce de collection éventuellement incohérente. Alors, il faudrait ajouter là-dessus un second élément, c'est que souvent, la prédiction vous dit que quelque chose va se passer, mais ne vous dit pas comment ça va se passer. Et en fait, c'est bien utile pour les aèdes. Supposez un peu que Tirésias raconte à Ulysse, point par point, et prétendant par prétendant, et flèche par flèche, comment il va descendre tous ces messieurs, la suite du poème ne serait pas très intéressante. Bon. Enfin, peu importe, ça c'est autre chose. Très souvent, donc, on vous annonce quelque chose, on sait que quelque chose va se produire, mais on ne sait pas comment cela va se produire. Autrement dit, l'idée que les devins, que certains devins, même très forts, que certaines divinités extrêmement bien informées, par exemple la Terre, c'est énormément de choses, l'idée que ces gens-là savent tout, est une idée qui ne tient pas debout dans le monde. Il n'y a pas de personnage omniscient. Alors, à l'époque classique, en Europe, donc au XVIIe siècle, on a fabriqué... avec la littérature latine, peu importe, une certaine image du destin. Dans certains prologues d'opéra, vous verrez arriver... Les prologues d'opéra, souvent, se font, au XVIIe siècle, se font avec des allégories, c'est-à-dire des personnages qui sont la poésie, la fortune, l'amour, des abstractions devenues des personnages. Alors, dans certains opéras, vous voyez arriver un personnage... Il a évidemment les yeux fermés parce qu'il est aveugle. Il est évidemment une grande barbe, c'est des choses. Et évidemment une voix. Non, on ne peut pas imaginer un destin qui chanterait en ténor, c'est pas possible. Bon, mais ça paraît. C'est une idée dont je dirais. Alors, dont on peut faire l'histoire. Et je pense que cette histoire. Enfin, je pense surtout. Clair. Que cette histoire vient en particulier de l'évolution de la philosophie grecque. Il y a des choses dans Platon, et après Platon, il y a cette fameuse grande école du portique, l'école des stoïciens,
qui sont, soit dit entre parenthèses, c'est intéressant, des logiciens de toute première force, et qui ont développé une formidable théorie du destin, qui ressemblerait, bon, j'ai pas le temps d'étudier la portée des analogies, mais enfin, qui ressemblerait à cette idée du déterminisme que se fabriquait la science ou le scientisme du 19e siècle. Hein. Qui ressemblerait à cette idée qui figure dans certains auteurs, par exemple Diderot a joué avec ça dans Jacques le fataliste justement, l'idée que tout est écrit là-haut et que tout se passe comme c'est écrit là-haut. Mais cette idée-là, ça consiste à pousser jusqu'au bout, à exagérer jusqu'au bout, une expérience qui, elle, est présente dans Homère et qui est également présente dans le monde moderne. C'est une expression qu'on entend en France, à l'heure actuelle, et pas seulement dans les campagnes. Un accident grave. Le tracteur s'est retourné et Augustin est passé dessous. Puis il en est mort. Un accident vraiment grave. Le taureau a encorné. Pierre-Marie, pourquoi ? Le taureau avait toujours été aimable avec son maître. Enfin, pour autant qu'un taureau peut être aimable. Puis ce jour-là, le taureau a eu une idée de taureau et le maître est mort. Et on se dit, ça tenait à rien du tout. Ça aurait pu ne pas se passer. On imagine qu'il aurait suffi de rien pour que ça ne se passe pas. Mais ça s'est passé. Et puis on ne peut plus rien faire. Et on a l'impression que, alors on dit, c'était son jour. Vous connaissez cette expression ? C'était son jour. C'était son jour. On peut rien. Il est mort. C'était son jour. C'est pas l'expression, c'était pas son jour, il a simplement eu c'était son jour. C'est inévitable, c'est inéluctable. On peut rien faire. Remarquez, là je suis en train d'évoquer des choses très tragiques, mais ça peut être beaucoup plus anodin, mais quand même, cette impression de l'inéluctable. Vous savez, vous faites la vaisselle, vous cassez l'assiette. Bête, c'était l'assiette que maman aimait bien. Tu te rappelles, on se la disputait, on voulait tous la voir à table. Voilà, elle est cassée. Si, c'est fini. Elle est cassée, c'est fini. Alors, cette impression de. Ça pouvait pas être autrement, ça pouvait pas se passer autrement, c'est une impression que vous rencontrez très régulièrement dans les poèmes homériques. Comme idiot. Bon, il était un peu sous, c'est entendu. Elpénor, il aurait pu prendre l'escalier. Non, il est tombé du toit. Il s'est réveillé, il s'est mal réveillé, il a marché droit devant lui, pof, il est tombé. Il est mort. On peut rien faire. C'est cette impression-là qui se construit après autour d'une immense philosophie qui pourrait amener à donner l'impression qu'il y a quelque part une volonté dont on ne sait pas, qu'on a toujours plus ou moins envie de transformer en personnage, une volonté qui ferait que les choses se passent d'une certaine manière et pas autrement. Alors vous me direz évidemment, dans l'Iliade, évidemment c'est constant, dans l'Iliade, quand tu un personnage tous les divers, le sentiment de l'inéluctable est là. Tenez, c'est au moment où Patrocle va tuer Sarpédon. Je ne sais pas qui est Sarpédon, c'est un homme charmant. C'est le fils de Zeus, un des innombrables fils de Zeus. Et Zeus sait que Sarpédon va mourir. Il dit au fond, je pourrais le remettre chez lui, dans son pays lointain, il vivra encore un petit peu. Maintenant, il va mourir. Et Zeus n'y peut rien. Alors on dit qu'il y a une puissance au-dessus de Zeus. Vous n'en trouvez pas la moindre trace, ni dans l'Iliade, ni dans l'Odyssée. C'est peut-être une idée de latin.
Mais alors méfiez-vous quand vous trouvez dans une traduction de l'Iliade et de l'Odyssée, vous trouvez partout le mot de destin, quand vous trouvez le mot fatal, quand vous trouvez le mot destiné, etc., etc. Méfiez-vous, parce que c'est une invention du traducteur beaucoup plus que le texte même. Alors, quels sont les mots qu'on traduit par destin ? Je voudrais d'abord faire remarquer que pour nous autres, qui parlons le français d'aujourd'hui, de destin à destiné, il n'y a pas loin. De destiné au verbe destiné, destiné à, il n'y a pas loin. De destiné à destination, il n'y a pas loin. Et que quand on parle de destin, on n'est pas loin de parler de quelque chose, on considère la fin, on considère le but de la chose. Le destin a fait telle et telle chose pour vous amener à. Or ça, c'est totalement absent, je crois, de cette expérience que je vous ai rappelée et qu'on dit en étant, qu'on décrit en disant « c'était son jour ». Celui qui vient de mourir d'un accident, ben justement, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de destination, ça ne mène à rien, c'est absurde. Vous connaissez ça ? On dit, c'est un accident idiot. Puis on se dit, mais est-ce qu'il y a des accidents qui ne sont pas idiots ? Bon. Il n'y a pas cette espèce de grande construction logique qu'ont fait donc certains philosophes, les stoïciens par exemple, et qui donneraient une raison d'être à ces accidents qui se produisent. Le mot qu'on traduit par destin, il a souvent à voir avec le mot sort. Et je pense qu'il faut jouer avec cela, avec les différents sens du mot sort en français. Souvent on dit, on lui a fait un sort, votre sort est de ne jamais gagner d'argent, votre sort est de, etc., etc. Et il faut se rappeler que derrière sort, il y a aussi pile ou face. Et dans l'Iliade, dans l'Odyssée, c'est assez fréquent qu'on tire les choses au sort. Très précisément, la mort de Sarpédon, elle est tirée au sort. La mort d'Hector, elle est tirée au sort. Zeus a une balance. Et puis regarde. C'est une coïncidence. Coïncidence entre un jeu de tout ce que vous voulez, et puis un événement qui se produit. Il y a un autre mot qu'on traduit très souvent par destin, et qui est le mot, alors je le dis en grec, qui est le mot Moïra. Alors, je laisse de côté le fait que Moïra est un prénom celtique, mais ça n'a rien à voir. Moïra, on en a fait, certains traducteurs l'ont naturalisé, on en a fait les moires. On vous dit qu'il y a des divinités qui s'appellent les moires, comme la moire, comme le tissu. Ce sont les moires, elles filent, et elles filent le destin des gens. Alors du coup, on a traduit ça en latin, et on parle des parcs. Et beaucoup de traductions classiques, y compris relativement récentes, parlent des parcs. Quand on voit que c'est une grave erreur. On oublie que Moïra veut dire une partie. Et que très souvent, Moïra est employé quand on parle d'un partage. Chacun a sa part. Or, le partage, pour Homère et pour Hésiode, c'est le fondement même de l'ordre du monde. On sort du chaos où tout est indifférencié, et puis on détermine des parts, et on attribue les parts à des gens. Le monde est en ordre parce que les trois frères se sont partagés le monde. Zeus là-haut, Poséidon à côté, Hadès en dessous. Poséidon étant celui qui étreint la terre. Ça se discute, mais j'aime beaucoup ça. Pour l'instant, je suis en train de traduire par le maître du séisme. Ah oui, celui qui est là, vous voyez ce que c'est que Santorin. C'est celui qui est peut-être à l'origine de la légende de l'Atlantide. Hein, c'est le volcan qui a fait disparaître une île. la mer est celui qui est dans la mer, et le maître de la mer est aussi celui qui tient la terre dans ses mains, qui de temps à autre la secoue, puis la fait disparaître. Bien. La justice existe parce qu'il y a un partage, et que chacun a sa part. Ça vaut dans la société. On insiste beaucoup sur le fait que dans les repas, d'innombrables repas que mangent les braves gens dans l'Iliade et surtout dans l'Odyssée, les gens ont des parts égales. Les parts qui sont bien réparties. Si quelqu'un n'a pas sa part ou a une part trop petite, le monde est en danger. C'est ce qui se passe tout simplement au début de l'Iliade. Quand on est obligé de rendre une des esclaves qui a été obtenue par conquête et par pillage et par razzia, c'est qui était l'esclave d'Agamemnon, il est obligé de la rendre pour des raisons. Il dit, maintenant j'ai plus ma part. Il me manque une part de butin. Bon. Ça a des conséquences dramatiques. Part égale. Chacun a sa part. Entre parenthèses, il y a une relation entre l'idée de partage et l'idée d'honneur. Avoir été lésé dans un partage, c'est perdre son honneur. Bien. Ou tout au moins perdre une partie de son honneur. Cette idée de partage nous met assez près de l'idée de contrat. Disons plutôt de serment, si vous voulez, mais ça revient au même, qui est quelque chose d'absolument fondamental dans la pensée d'Homère et de ses contemporains. Le monde est en ordre parce qu'il y a des contrats et parce que ces contrats sont respectés. Mais vous voyez, c'est comme les oracles. Il y a une collection invraisemblable d'oracles, une espèce de fatras d'oracles qui vont un peu dans tous les sens. Il n'y a pas une espèce de système qui rendrait compte, de manière logique, de tous ces oracles. De la même manière, il y a une collection de contrats entre des individus, mais le contrat social, à la Rousseau, n'existe pas. Ça met en jeu des individus, d'où les fameux contrats d'hospitalité. L'hospitalité, c'est évidemment un contrat. L'ordre dans la société naît du fait que les gens se connaissent les uns des autres et les uns les autres ont des relations d'hospitalité, des relations qui doivent être respectées. C'est pourquoi d'ailleurs il peut aussi y avoir des ennemis. Si vous n'avez pas de relation d'hospitalité avec quelqu'un, vous pouvez le considérer comme un ennemi. Vous pouvez arriver chez lui, personne n'y verra d'inconvénient. Vous pouvez arriver chez lui avec une armée, des lances et tout, vous prenez ses vaches, vous prenez ses chaudrons, vous prenez ses trépieds, vous prenez sa femme, vous prenez ses esclaves, etc. Bon, à ce moment-là, il n'y a pas trop de problèmes. On négocie. C'est permis d'être pirate dans cette société-là. Mais, si vous avez commencé par être l'hôte de quelqu'un, alors là, l'acte de piraterie est un pur scandale. Il est probable que c'est là-dessus que repose l'Iliade. Il est probable, les textes sont pas clairs. Il est probable quand même que Paris, le Troyen, a été vraiment reçu comme un hôte par Ménélas. Alors, partir avec la femme de Ménélas et ses vaches et tout, etc., c'est quelque chose d'inacceptable. D'où la guerre de Troie. Bien. On n'arrivera jamais à négocier. Bon, je voulais arriver là pour vous suggérer des choses autour de la notion de faute. Notion qui est extrêmement difficile à comprendre dans ce monde-là, très différente de ce qu'elle peut être dans le monde contemporain. Je vais repartir des... Pardonnez-moi si vous connaissez ce topo auquel je tiens beaucoup, Édipe dans le monde moderne. On découvre un jour que Édipe, monsieur Édipe, qui est dans la voie de téléphone, a tué son père et épousé sa mère. Édipe est arrêté. Édipe est jugé. Il est jugé pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de le donner. Le fait que la victime soit son père n'a pas intervenu, vous ne savez pas. Je suggère même que, étant donné la façon dont ça s'est passé, il y a peut-être prescription. Et que Édipe ne sera pas gêné. Quant au fait qu'il a épousé sa maman, c'est un peu embêtant. Mais on ne va pas le lui reprocher. On va faire une enquête administrative dans les services de l'état civil. Savoir pourquoi on a pu les marier sans savoir ce qu'il en est. Ça, c'est comme ça que nous voyons les choses. Ulysse est... Non, je tiens. Hein. Homère. Oh, voilà, je ne vais pas y arriver. Alors, donc, Édipe est un criminel abominablement dangereux. Il n'est pas responsable. Aucune importance. Il est lié à cette horreur qui s'est produite, l'inceste du fils et de la mère, le meurtre du père par le fils. Et comme il est lié à cette histoire, il faut s'en débarrasser. C'est une souillure et un danger pour l'ordre du monde. Même chose, si vous voulez, avec Hélène. Et la dernière occasion que j'ai ici de faire un hommage à Ronsard, Ronsard a pigé les choses de manière étonnante. Hélène fut occasion que Troie fut brûlée, etc. Occasion. Même si Hélène n'y est pour rien, ce qui est possible, même si on l'a enlevée sans lui demander son avis, et il y a un certain nombre de gens qui prennent les choses dans ce sens-là, elle est, c'est à cause d'elle, c'est parce qu'elle était là, même si elle n'a rien fait, que la guerre de Troie a eu lieu, que nous autres de jours sont morts. Et on le lui reprochera à jamais, comme étant là l'occasion d'un malheur. Et ça, je pense que c'est utile pour comprendre ce qui se passe à la fin de l'Odyssée. Ulysse se venge. D'un certain point de vue, il n'a pas tort, c'est incontestable. Les prétendants ont commencé vraiment à aller trop loin. Ils ont mis le temps, mais plus ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on rend visite à la prétendue, si j'ose dire, on rend visite, elle vous fait le thé, tout va très bien, et puis on commence à s'incruster, et puis. Bon. Alors. C'est un massacre. Tous les prétendants y passent. Y compris le dernier, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui est un brave petit garçon qui n'a pas fait de mal à une mouche.
Phémios ?
Non, avant, il s'appelle Nicodès ou je ne sais plus comment. Bon, un peu importe. Tout le monde y passe. Avec Ulysse est absolument impitoyable. Il ne sauve que, effectivement, Laëde. Sauve Laëde parce que Laëde est un chanteur. Et puis il sauve le héros. Et le héros est un personnage dans ces sociétés-là, comme dans la société médiévale, est un personnage très important. Il est héros. Il est sauvé en tant que héros. Parce que le héros est l'individu relativement neutre. Le héros est l'individu que tout le monde respecte parce que c'est lui qui permet la négociation entre les adversaires. Quand votre adversaire vous envoie son héros, AUT, ou AULT si vous préférez, dans le paragraphe antique, vous respectez le héros, vous écoutez ce qu'il vous dit et vous lui répondez poliment. Tuer un héros, c'est quelque chose de monstrueux parce que c'est mettre en cause la possibilité de l'ordre du monde. Le héros est une garantie, si vous voulez, contre le déchaînement de la fureur absolue. Alors, Ulysse a laissé sauver le héros et a sauvé Laëde. Mais tous les autres y passent, évidemment les très grands vilains, mais aussi les petits garçons gentils. Vous avez noté qu'il y a des petits garçons gentils ? Ah oui, il y a des petits garçons gentils, ils ont l'appelé pas longtemps. Depuis combien de temps Pénélope est supposée être veuve ? 20 ans.
Bon. Enfin, 17 ans. 17 ans.
Bon, on l'a mariée à 12 ans, au moins des choses, vraisemblablement. Enfin, vous voyez quel âge elle a, quoi. Il y a des gens de 17 ans, 18 ans, qui envisagent d'épouser Pénélope. Faut pas s'étonner après si Ulysse s'est pas... si Édipe s'est pas posé de questions. Bien. Ulysse doit être purifié. Nous estimons qu'il a raison, nous estimons qu'il était dans son droit en se défaisant de tous ces individus qui, de toute façon, ont essayé de lui faire la peau. Nous estimons qu'il y a une espèce de légitime défense du côté d'Ulysse. Il n'en reste pas moins que, objectivement, le massacre auquel il s'est livré est une horreur. Il y a du sang partout. Il y a du sang partout, puis il y a des petites servantes qui sont pendues par le cou comme des petits oiseaux, parce qu'elles ont couché avec les prétendants. Bien. Insupportable. Manque de fidélité. Peut-être en parenthèse. Bien. Et puis, alors, il y a le chevrier. Ça, Bruno était tellement scandalisé qu'il a oublié le chevrier. Vous n'êtes pas scandalisé ? Alors, vous lirez ce qui arrive au chevrier. C'est fini ? Oui, ben, Ulysse aussi était pressé d'en finir avec le chevrier. Et le chevrier, il a senti sa douleur. Bon. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que quoi que nous pensions de la légitimité des actions d'Ulysse, il faut noter deux choses. La première, c'est que il n'y a pas de cité, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de juge auquel il pourrait s'adresser. Il faut qu'il se fasse justice lui-même. On n'est pas encore dans le monde de la cité grecque. Ça se verra beaucoup plus tard dans une très très belle tragédie d'Euripide que j'aime beaucoup, qui met encore en cause Oreste, c'est qu'Oreste a tué sa maman pour des raisons très 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 légitimes. Et le vieux Tyndare, qui est son grand-père, dit il a eu raison de la tuer, mais enfin il n'aurait pas dû la tuer. Il aurait dû la livrer au tribunal de la ville pour que les gens la jugent. Mais ça, c'est un anachronisme formidable de la part d'Euripide. Dans l'Odyssée, dans l'Iliade, il n'y a pas de ce genre d'institution auquel on puisse avoir recours. Donc il faut se purifier. Et c'est ce que signifie, me semble-t-il, tout ce qui se passe après, non seulement le grand nettoyage de la maison, mais l'obligation pour Ulysse de repartir et d'aller dans un pays invraisemblable où on ne connaît pas les usages des hommes. Un pays où on ne sait pas ce que c'est que le sel, un pays où on ne sait pas ce que c'est qu'une rame, où on ne sait pas ce que c'est que la mer, où on ne sait pas ce que c'est qu'un bateau, etc. Ulysse s'impose cette tâche-là. On est dans un monde où il n'y a pas d'absolu. Zeus fait régner la justice, c'est entendu. Zeus fait régner la justice par négociation. Zeus n'impose jamais à Poséidon d'être enfin aimable avec Ulysse. Zeus joue. Et finalement, on arrive à s'entendre. Ulysse fera des grands sacrifices à Poséidon et tout ira. Il y a des négociations entre les dieux. Dans l'Iliade, c'est pas beaucoup plus visible. Et il y a des négociations entre les hommes et les dieux, parce que chacun songe, et voilà le grand mot qu'il faudrait arriver à prononcer, un autre emploi du mot partage, parce que chacun songe à faire sa part aux dieux. C'est ce qu'on a reproché, à tort, à Socrate, de n'avoir pas fait leur part aux dieux à qui la société fait part. Et c'est pour ça que le sacrifice est si important. Vous savez ce que c'est que le sacrifice ? Ça consiste, avant le déjeuner, à tuer la bête qu'on va manger, et puis on la partage avec les dieux. On en coupe un bout, on le fait griller, et la fumée monte au ciel, et ça intéresse les dieux. Bon, il y a des tas de détails, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on connaissait autrefois, je crois que c'est un peu disparu avec la civilisation néolithique et la paysannerie. Vous savez, la part du pauvre. Hein ? On partage le gâteau, et on met à part, sur une assiette, la part de celui qui va frapper à la porte, celui qui n'a pas de maison, celui qui, on l'appelait un cheminot autrefois, et le roi, hein, celui qui va parler. Ben, le pauvre, est, puis le pauvre, c'est un peu Dieu, de la civilisation traditionnelle. Eh bien, on fait la part des dieux. Et c'est peut-être ça qui est le plus frappant dans ce texte. Les mots disent ce qu'ils disent, et ils suggèrent des allégories. Les personnages savent l'avenir, mais ils ne le savent pas complètement. Il y a toujours quelque chose qui les intéresse et qu'ils ne saisiront pas. Tenez, le grand oracle. C'est l'oracle de Thèbes. Celui-là, Prométhée le sait. Et Prométhée négocie sa libération contre le secret qu'il connaît, qui est l'avenir de Zeus. Ce secret, c'est un oracle conditionnel. Si quelqu'un épouse la déesse Thétis, le fils de Thétis sera plus grand et plus fort que son père. Alors, Zeus, qui n'est pas fou, s'est empressé de marier Thétis à un mortel, Pélée. Beau prince. Elle n'était pas contente, hein. Enfin, tant pis, elle aurait bien préféré un dieu. Et même, je sais lequel. Alors, vous savez, ça va me donner quelque chose, hein. Celui qui est le fils de Thétis et de Pélée, c'est Achille. Ouais, un bon résultat. Bien. Mais en fait, mariage ou pas mariage, pour lui ça n'a pas tellement d'importance, encore qu'il tienne enfin, son chapeau de femme. Zeus se serait bien intéressé de très près à Thétis. Mais il n'est pas fou. Zeus n'est pas tout puissant. Parce que si Zeus est l'amant de Thétis, ils auront un fils, évidemment. Enfin, bon, on ne peut pas imaginer ça autrement. Et le fils sera plus puissant que Zeus, et Zeus ira en dessous, dans l'invisible, retrouver son père. Il n'a pas envie. Zeus n'est pas tout puissant. Alors il reste, bon, j'y accorde peut-être trop d'importance, mais il reste autour de toute cette mythologie. Il reste cette image de quelque chose d'inaccessible. Thétis est à jamais inaccessible pour Zeus. Elle sera toujours ailleurs, un peu loin. Elle sera toujours quelque part autre, et pas lui, et pas à lui. Dans la mythologie, il y a toujours quelque part de l'autre chose. Un certain Victor Hugo, qui est un grand admirateur d'Homère. Il dit des bêtises sur Homère, mais il dit aussi des choses géniales. En tout cas, il a, lui, parfaitement compris qu'entre Homère et Virgile, il y a un monde, c'est pas du tout pareil. Il dit ça très bien, méchamment, il dit Virgile, avec toute sa poésie, n'est jamais que la lune d'Homère. C'est pas gentil. Bon. Il dit aussi, le monde naît, Homère chante, c'est l'oiseau de cette aurore. C'est complètement faux, mais c'est beau. Mais on peut lire, je crois, Homère, en pensant à ce que Hugo a noté un jour une fois. Il n'en a rien fait, ça ne figure pas dans ses œuvres, hein, ses carnets de notes. Je suis un homme qui pense à autre chose. Ça vous plaît ? Alors arrêtons de là. Merci.
Alors Cécile,